Bonjour, nous c'est Émilie, Pauline et Léa. Vous écoutez L'écho des mères, le podcast qui parle de maternité, mais pas que. Tous les mois, on discutera d'un sujet qui nous tient à cœur, car on a beaucoup à dire et souvent pas trop de place. Alors on se la crée et on vous embarque avec nous. Bienvenue à bord! Pour ce premier épisode, c'est moi, Léa, qui ai voulu commencer avec un thème assez vaste pour qu'on puisse apprendre à se connaître tout en rentrant dans le vif du sujet du grand fracas que peut être la parentalité dans une vie. J'avais envie qu'on parle un peu de nos vies avant d'avoir un enfant, de ce qui a changé après l'arrivée de nos bébés en termes de carrière professionnelle et vie sociale, et quel impact finalement la maternité a eu sur notre liberté individuelle. Donc bonjour Émilie.
Bonjour Léa.
Bonjour Pauline.
Bonjour Léa.
Alors je vais commencer, puis après on laissera la discussion aller d'elle-même. Donc moi, avant d'avoir un enfant, je venais juste de finir mes études pour la suite. J'étais en recherche d'emploi, voilà, j'avais pas vraiment de vie en fait qui avait commencé, entre guillemets, dans le sens où j'avais suivi mon mari pour son départ dans la vie professionnelle, donc on n'avait pas de vie sociale très ancrée. Et oui, donc comme je disais, je cherchais un emploi. Bon, la grossesse m'a pas aidée à trouver un emploi, vous pouvez l'imaginer. Voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire de ma vie avant enfant. Je ne sais pas s'il y en a une de vous qui peut continuer.
Moi, c'était complètement le contraire, en fait. C'est-à-dire que j'avais justement une vie professionnelle très, très, très bien partie. Ça faisait déjà 7-8 ans. 7-8 ans que je travaillais, que j'étais vraiment dans la vie active et que j'avais une vie sociale très développée. moi, c'est un petit peu ce que la maternité a changé dans ma vie. C'est que ça a complètement bouleversé ma carrière et ma vie sociale également.
Alors moi, j'étais commerciale en fait de formation. Donc j'avais pas vraiment de poste fixe, mais j'enchaînais les CDD en fait. J'étais mariée depuis 3 ans quand on a décidé de faire un enfant. Et donc ça a vraiment changé ma vie parce que du coup j'ai arrêté de travailler en fait, tout simplement. J'ai arrêté d'enchaîner les CDD et de chercher du travail puisque que ce serait très très clair dès le départ, dès qu'il y aurait des enfants, j'arrêterais de travailler. Donc moi, en fait, avant d'avoir un enfant, je vivais ma vie, on va dire, mais je me suis pas lancée dans une carrière parce que je savais que ça s'arrêterait bientôt.
Voilà. Est-ce que c'était vraiment ton choix ou c'était quelque chose que tu t'es senti imposé? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis toujours, en fait?
Ouais, alors moi, c'était mon choix depuis toujours, en fait, quand j'ai rencontré mon mari. Quand il a été question que ça devienne une relation amoureuse sérieuse, je lui ai dit tout de suite, moi je te préviens, pour qu'on se marie et tout ça, mais moi si je fais des enfants, j'arrête de travailler, donc il faudra que toi tu assumes financièrement, parce que c'est comme ça et puis c'est tout, et si ça te convient pas, tu vas chercher quelqu'un d'autre.
Voilà. Au moins le plan était clair. Et toi Émilie, par rapport à ce que tu pensais avant de comment ça allait, avant que tu aies ton enfant, qu'est-ce que tu avais mis en place dans ta tête comme plan de conciliation de ta vie professionnelle, sociale et de ta maternité?
Alors, moi, j'avais aucun plan. Je suis vraiment rentrée dedans très, très naïvement, c'est-à-dire que j'avais pas du tout penser que j'aurais à trouver un équilibre, hein. Vraiment, moi j'ai jamais pensé à la base à avoir une famille, c'est devenu très très tard, donc quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, j'avais déjà 30 ans, et en fait j'ai pas du tout réfléchi, c'est-à-dire je me suis dit ok, on va faire un enfant, Encore aujourd'hui, je suis en train de me demander pourquoi exactement. Mais c'était une personne avec qui, enfin, vraiment, je pensais qu'il serait un bon père et avec qui je voudrais bien avoir une famille. Et c'est tout, en fait. Hein. On s'est lancé là-dedans et je suis tombée enceinte. Et en fait, moi, à partir de ce moment-là, j'étais en Chine. Je travaillais en Chine et on avait décidé qu'on rentrerait quand même au Luxembourg pour élever notre enfant. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de poste au Luxembourg quand je suis tombée enceinte. Et finalement, ben, j'ai eu un poste très très vite et je m'étais dit, bon, ben, je vais faire mon petit contrat, c'était un CDD, hein. Je vais faire mon petit contrat, puis après, advienne que pourra. Et puis, sauf que ben, après, j'ai eu le poste, un poste pour une année entière à mi-temps. Et je me suis dit, oh, allez, à 40%, c'est pas beaucoup, on va arriver à se débrouiller. C'est moi qui étais habituée à travailler à plein temps, mais un gros, gros plein temps, hein, c'était toute ma vie mon travail. Et ben, je me disais que vraiment, en travaillant à 40%, j'aurais le temps de tout faire. Donc, m'occuper d'un enfant, m'occuper d'une famille, et en plus, de côté, comme ça, travailler un petit peu, voilà, idéaliser, etc. Et en fait, j'ai eu une grosse claque quand j'ai commencé à travailler parce que, bah, au niveau de la garde, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Beaucoup plus
Ouais, mais
difficile.
on va y revenir. Moi, j'ai pas
Ouais.
trop à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce que bon, bah moi, même si j'avais pas de carrière, je pensais bien la commencer. Ben voilà, je me suis dit, allez, on fait tout en même temps, on fait un bébé, on lance une carrière, allez, voilà. Et bon,
Bon.
ben finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je pense qu'on va se concentrer un peu aussi, parce que pas que, mais sur les problèmes que, bah, que la garde en France et aussi au Luxembourg, du coup, ça pose pour les mères, pour développer leur vie à elles et leur maternité. Parce
Oui.
que je crois que bon, c'est ce qui nous a freinés toutes les deux. Émilie, bah, même si ce n'est pas les mêmes raisons, mais voilà, ça nous a freinés. Je pense que ça freine beaucoup de personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Mais oui, moi, c'était pareil. Je me voyais vraiment à la fin de mon congé maternité trouver quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai eu une proposition d'emploi à ma fin de congé maternité. Et sauf que, bon, bah, quand on arrive avec un enfant de 2 mois et demi, et bah, je me suis dit, bah non, en fait, je peux pas. Donc
Ouais, voilà.
voilà, mais juste avant, et puis je vais dire pour moi, et puis après je vais te retourner la question, Émilie. Mais bah moi, j'avais quand même commencé à chercher une solution de garde, du coup, en amont de la naissance, parce que bon, en France, c'est un peu quelque chose qui est connu, comme quoi, bah, dès que t'es le premier trimestre enceinte, il faut tout de suite trouver une solution de garde, parce que sinon, bah, c'est bouché comme je sais pas quoi, quoi. Donc, du coup, j'avoue que je me suis mise très tôt à chercher quelque chose. Mais en fait, pendant la grossesse, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un bébé. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, comment je peux trouver la bonne personne pour s'en occuper, alors que je sais même pas comment moi, je peux m'occuper d'un enfant. Donc j'ai trouvé ça super difficile, en fait, de me dire ah, je vais trouver le moyen de garde, sauf que bah en fait je sais même pas à quoi ça ressemble à un enfant, quoi. Voilà, moi j'avoue que ça c'était un des premiers freins par rapport à la garde. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'avec mon conjoint on s'est dit ah bon bah non bah tant pis, on fera ça plus tard. Parce que en fait, on pouvait pas trouver quelqu'un puisqu'on savait pas ce qu'on cherchait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Voilà.
Moi, c'est mon expérience d'enfant qui fait que j'ai renoncé à prendre un mode de garde. Parce que
Ouais,
moi,
d'accord.
quand j'étais petite, en fait, mes parents, ils travaillaient énormément. Ma mère, elle était infirmière. Mon père, il était cadre. Donc, c'était des horaires complètement décousus. C'était pas les 35 heures. On a toujours été avec mon petit frère. De mode de garde en mode de garde. C'est-à-dire que, alors, j'ai jamais été à la crèche, mon frère non plus. Par contre, on avait des asthmates. Alors, on a eu des asthmates à la maison, des asthmates chez elle. C'était la garderie, c'était la cantine, l'étude, enfin, tout ce qui était possible, en fait, juste pour s'occuper de nous, parce que mes parents, ils n'étaient pas là. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire vivre ça à mes enfants, d'autant plus qu'on a eu des nourrices qui étaient parfois maltraitantes. Donc ça, voilà. Alors, il y a des trucs dont on se souvient, des trucs dont on ne se souvient pas, mais moi, ce que je sais, c'est que ma mère, en fait, je ressentais ce truc de, ouais, je sais ce qui se passe, mais en fait, j'ai pas le choix. Voilà. C'est horrible, parce que voilà, parce que déjà à l'époque, donc moi j'ai 34 ans, déjà à l'époque, c'était pas si simple de trouver un mode de garde, donc maintenant c'est encore pire, mais à l'époque, c'était pas si simple. Donc déjà ça, elle ne pouvait pas se permettre de ne pas aller au travail, ou mon père, encore pire, non mais inimaginable, de ne pas aller au travail parce qu'on n'était pas gardé. À l'époque, en plus, mon père avait été muté, donc on était éloigné de notre famille, donc vraiment personne en fait pour s'occuper de nous.
Ouais, il n'y avait pas de
Donc
relais,
il y
ouais.
avait voilà, il y avait des moments où tu sentais que voilà, moi je sais que par exemple l'école ça se passait très mal, parce que bon, l'école c'est pas la garderie, mais c'est toujours un mode de garde, hein, c'est toujours là où ton enfant il est pendant que toi tu fais autre chose. Et moi ça se passait super mal à l'école, que ce soit avec les professeurs pour certaines fois ou avec des élèves, j'ai toujours été un peu de côté quoi. Et en fait, je disais à mes parents, non mais ça va pas, je veux pas y aller et tout. Non mais si, si, tu y vas, parce qu'en fait, de toute façon, c'est comme ça, puis on peut pas faire autrement. Et à l'époque, je le vivais super, 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 super mal. Je me disais, mais en fait, ils s'en foutent de moi, c'est pas possible et tout. Maintenant que je suis maman et que voilà, même si moi, j'ai pas de travail fixe, parce que j'ai quand même un travail, mais je choisis mes horaires, et je me rends compte en fait que ça devait pas être si simple d'entendre son enfant dire c'est horrible pour moi la situation que je vis quand vous n'êtes pas là, et de pouvoir rien faire en fait. Et moi je voulais pas du tout me retrouver à un moment donné avec mes enfants dans cette situation, à leur dire non mais en fait j'ai pas le choix. Voilà. Donc des fois je l'avais fait en amont en fait, de pas prendre de mode de garde. Mais dans ma tête, au départ, je pensais quand même que j'allais pouvoir laisser mes enfants, par exemple, à leurs grands-parents, le temps d'un week-end pour partir avec mon mari, par exemple. Ce n'est jamais arrivé, d'accord? C'est impossible. T'inquiète pas,
Je trouve
ça sera
ça.
ici non plus.
Je trouve, Pauline, que tu l'as déjà très bien fait, mais je vais quand même le faire très clairement. On va faire un petit disclaimer, comme quoi notre conversation n'a pas but de culpabiliser
Ah
qui que
non.
ce soit. Voilà que
Non.
si, et que justement on a toutes les trois des expériences qui sont diverses. Il en existe encore bien bien d'autres. Voilà, chacune a son expérience et c'est pas parce que nous, on a fait certains choix que c'est les meilleurs et qu'il faut faire les mêmes. Du coup,
C'est
Émilie, est-ce que du coup, tu avais un plan comme tu as eu tes CDD, CDI, il s'est bien posé, j'imagine, la question de qui va garder ton enfant. Donc, vous avez
Alors,
répondu à comment à cette question?
en fait, déjà, il faut savoir qu'au niveau de la timeline, j'ai donné naissance donc à ma fille le 30 janvier, donc en hiver. Et après ça, j'étais pas en congé maternité parce que je venais d'arriver au Luxembourg. J'ai eu droit à rien du tout, hein, ni congé pas maternité, ni congé parental, parce que ça faisait moins de 6 mois que j'étais dans le pays. Et donc, du coup, je m'étais dit, de toute façon, je ne travaillerai pas, quoi qu'il arrive, je ne travaillerai pas avant août-septembre de l'année prochaine. Donc, pas avant que Charlotte ait 7-8 mois. Et pour moi, à sa naissance, ça me paraissait hyper grand, quoi. Je me disais, oh, elle sera grande. Hein. Alors, maintenant, ça me paraît complètement mais surréel d'avoir repensé ça. Mais c'est comme toi, ce que tu disais, Léa, j'avais aucune idée de ce que c'était un enfant, en fait. Hein. Vraiment aucune idée de ce que c'était un bébé, comment ça grandissait, comment ça évoluait. Et donc, quand j'ai eu ma proposition de... Alors, c'était pas un CDI, hein. Tout de suite, c'était un CDD, encore une fois, d'une année à mi-temps. Je me disais, on verra d'ici là. Vraiment, j'étais pas pressée. Il y a l'été qui arrive, on va gérer, on va en discuter. Et puis, en fait, ce qu'on s'était dit avec mon conjoint, c'était que comme j'allais travailler maximum 2 heures par jour, alors ça aussi, mais n'importe quoi, c'était vraiment, encore une fois, je passais de 100% à 40%. Donc, je croyais que vraiment 40%, c'était les vacances. Et je omettais totalement que j'allais devoir quand même préparer, que j'allais quand même devoir faire mes corrections, que j'allais quand même. Enfin,
Oui, parce
enfin bref.
qu'on rappelle, parce que les gens, ils savent pas, Émilie, mais tu es prof. Voilà.
Voilà, oui, c'est vrai, je suis prof. Et donc, je me disais, bon, voilà, alors, on demandera à la belle-mère, on demandera à mon conjoint quelquefois, parce que mon conjoint est indépendant. chef d'entreprise, certes, mais bon, donc du coup, il peut un petit peu, et heureusement, on y viendra par la suite, donc moduler un petit peu ses horaires. Et puis, je me disais, oh, ma mère pourra venir de temps en temps, alors sachant que ma mère est dans la région parisienne, mais je me disais, oh, 2 heures de train, ça va, elle peut rester 2, 3 jours à la maison, puis après, elle repart, etc. Donc, vous voyez, en fait, vraiment vision très 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 naïve. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, eh bien, j'ai demandé à ma belle-mère de venir garder Charlotte quand j'allais travailler. En fait, ça s'est pas bien passé du tout, pour diverses raisons que j'étalerai pas ici. Mais du coup, au bout d'un certain temps, on s'est retrouvés sans personne. Sans personne pour la garde, parce que ma mère venir de Paris, en fait, ce n'est pas si facile que ça à faire. Surtout que ma mère n'est pas toute jeune non plus, hein. Voilà, elle commence à faire et tout. Mais elle l'a fait pendant quelques mois, de venir toutes les semaines de Paris et rester quelques jours pour garder Charlotte à la maison. Quand elle n'était pas là, eh bien, c'était mon conjoint Cédric qui restait à la maison pour rester avec Charlotte. Et pendant ce temps-là, on essayait, nous, de trouver une solution, parce qu'on voyait bien que ce n'était pas viable à long terme, pour toute l'année en tout cas, pour trouver un mode de garde. Et on a pensé à la mettre en crèche. C'était pas. Alors, plus elle grandissait, plus j'évoluais à côté d'elle, plutôt plus je voyais comment elle évoluait aussi. Plus je me disais que ça allait être difficile parce que c'était pas un bébé catalogue, hein, comme on les appelle. C'était pas un bébé catalogue que je pouvais laisser dès que je m'en allais déjà avec ma belle-mère ou même avec son père. C'était les cris, c'était les hurlements. La séparation était toujours hyper difficile, donc difficile pour elle, mais du coup aussi difficile pour moi. C'était vraiment très dur de la laisser, même avec un membre de la famille. Avec ma mère aussi, même si avec ma mère, du coup, ça se passait assez bien, parce qu'elle avait ses petites manières à elle de lui détourner l'attention. Voilà. Donc, du coup, on s'est quand même dit, mais on va pas pouvoir continuer à faire ça. Moi, je ne voulais absolument pas lâcher mon boulot. Je pense que c'est important de le dire, parce que malgré ça, malgré le fait que c'était un déchirement pour moi de la laisser, je ne voulais absolument pas arrêter ma carrière, même mettre une pause dans ma carrière, en fait. Parce que du coup, quand on y pense, je n'ai pas fait de pause vraiment dans ma carrière, à part quelques mois après que j'ai accouché et quand j'étais enceinte, mais j'ai pas du tout fait de pause. Et en fait, c'était du coup voilà, quelque chose qui était très ambivalent chez moi. Je voulais absolument continuer ma carrière, je voulais absolument travailler, mais c'était aussi un déchirement de devoir la laisser. Je pense aussi que, on a beau dire, hein, avec l'allaitement, c'est pas forcément facile. Oui, il y a des bébés qui prennent autre chose que le sein, mais il y en a qui prennent rien d'autre. Charlotte, elle a jamais voulu rien prendre d'autre que le sein. Et du coup, c'était voilà, problématique. Mais du coup, on a pensé à l'option crèche. On s'était dit au mois de janvier. Après Noël, on va la mettre en crèche. On n'a jamais fini l'adaptation. Ça a été une catastrophe. Elle est tombée très malade. On est allé à l'hôpital. Enfin, et du coup,
Oh là là.
après ça, voilà, je la remettrai plus à la crèche. Et après, on a cherché du coup des modes de garde à la maison, donc des assistantes maternelles à domicile. Et ça a été très 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 compliqué, très compliqué. De trouver déjà des personnes comme ça sur le pouce, hein, parce qu'on était au milieu d'année, de trouver une bonne personne. C'est ce que tu disais, Léa. De trouver, en fait, moi, ce que j'ai trouvé vraiment difficile dans la garde, c'est de trouver la personne qui pourrait s'occuper de mon enfant. Pas comme je le souhaitais, parce qu'évidemment que tu peux pas demander à ce que la personne de garde, on va dire, soit exactement comme toi sur tous les plans, exactement la même manière de faire. Tu peux pas demander ça, mais ait au moins les mêmes valeurs par rapport à l'éducation. Donc, pas crier, pas
Oui.
taper, parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit préciser quelquefois. Hein. Et en fait, on est passé de personne en personne. On a trouvé des personnes qui étaient très bien, mais il y avait toujours un truc au bout d'un moment qui n'allait pas. Alors, soit la personne ne venait jamais, donc ne prévenait pas et ne se pointait pas un matin. Soit c'était une personne vraiment qui avait dit, OK, je peux faire ça pendant 2 mois, mais pas plus. Et donc, du coup, on a alterné ma première année de travail, reprise de travail, en tout cas au lycée, a alterné avec entre Cédric, mon conjoint, qui reste à la maison pendant que je travaille, et ces modes de garde avec ces personnes-là, qui restaient pas, en fait. Donc, ça a été la première année, ça a été très, 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 très compliqué. Et c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que la deuxième année, là, par contre, on s'est dit, OK, on va pas revivre une année comme ça. Et donc, là, on s'y est pris. Là, on s'y est pris à l'avance. Là, on a lancé des annonces, etc., pendant l'été, tout ça. On a vu des gens, on a fait des adaptations, on a choisi la personne. Et finalement, ça s'est très mal passé par la suite. Mais voilà, je vais vous laisser un petit peu la parole parce que là, sinon, ça va durer 1 heure sur moi. Mais aujourd'hui, jusqu'à temps qu'elle aille à l'école, en fait, on n'a pas eu de mode de garde. Le mode de garde, c'était nous. On s'est alterné entre Cédric et moi, en fait.
Ouais, d'accord. Ok. Et toi, Pauline, comment ça s'est passé? Alors, il n'y avait pas de mode de garde puisqu'il n'y avait pas besoin de que tu ailles quelque part au travail, mais est-ce qu'il y a eu des différences entre le plan, ou si tu t'étais fait un plan de ce que ça allait être d'être parent au foyer et la réalité de ce que c'est en termes de, je sais pas, sacrifice de ta vie sociale, de tes intérêts pour autre chose que la parentalité, etc.
Ouais, alors ça, ça c'est une très bonne
Le petit
question.
rire.
Ah ouais, non, mais parce que moi, clairement, j'ai vu la Vierge hein, depuis que j'ai des enfants. Mais non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, malgré le fait que je voulais être mère au foyer pour m'occuper de mes enfants et tout, j'avais une vision de la parentalité qui est aux antipodes de la parentalité que je pratique. C'est-à-dire que pour moi, même pendant la grossesse, hein, c'est vraiment la naissance de Meïssa, de mon aînée, qui a fait que j'ai vraiment tout remis en question. Mais quand je dis tout, c'est pas seulement les méthodes d'éducation, c'est genre toute la vie, quoi. Et en fait, j'étais partie sur un mode d'éducation plutôt traditionnel, autoritaire. Pour moi, c'était complètement OK de frapper les enfants. Je le dis clairement, hein. Genre, pour moi, c'était genre normal, les fessées, les claques, enfin, les punitions, au coin, dans la chambre, t'es privé de dessert. J'étais, mais genre, vraiment convaincue que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, voilà, et pour moi, ça serait absolument OK aussi. De laisser mes enfants à quelqu'un, voilà, pour partir en week-end, pour faire une soirée. Enfin, voilà, la vie
J'avais exactement ta
normale.
vision, Pauline. J'avais exactement
Bah,
la même vision. Vraiment.
voilà, je veux dire, il faut le dire, quoi. C'est exactement ça. Je pensais que ça serait OK, que j'arriverais à me détacher de mes enfants, que c'est bon, ça ne me changerait pas. Je rigole parce que quand j'y repense, mais j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Et vraiment, voilà, que ma vie continuerait, que je continuerais à faire du sport, que je continuerais à voir mes amis comme je le voulais. Enfin, voilà, ce genre de choses, que j'aurais des loisirs, que l'enfant jouerait tranquillement dans un coin avec ses jouets pendant que moi je ferais autre chose. Enfin, voilà, je pensais que ça serait tout à fait possible. Bon, la réalité a été
Je pensais que ce
complètement
serait
différente.
facile, en fait.
Alors, pas facile parce que, au contraire, moi j'avais une vision de ce que me renvoyaient mes collègues, ma famille, que les enfants c'était absolument que des contraintes. Vraiment.
Ah oui, d'accord.
Voilà, que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait parce que voilà, il fallait le faire, mais que c'était clairement voilà, tu verras, vous pourrez plus rien faire, tu verras, tu feras que ça et tout. Mais c'était présenté d'une façon en fait. Qui donnait vraiment pas envie. Donc moi j'ai mis longtemps à avoir des enfants. Ça faisait déjà 3 ans qu'on était mariés avec mon mari. Et en fait moi c'est mon corps qui m'a dit non. En fait là maintenant tu veux un bébé en fait.
Ok.
Mais
Mais c'est marrant
intellectuel.
parce que ce que tu dis là, ce que tu... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais
Oui, vas-y, je
ce
t'en
que je veux
prie.
dire, c'était ce que tu disais là, c'est complètement à l'inverse de ce que tu disais juste avant. Ce que tu disais que la vision
Oui,
qu'on t'a
non.
envoyée, c'est que c'était très contraignant, mais que toi, tu
C'est
pensais
ça.
que tu allais quand même avoir ta vie.
Mais en fait, c'est que après, j'ai fait mon chemin, tu vois. J'ai fait mon chemin et tout, mais
D'accord.
c'était en mode, voilà, le plus important, c'est pas d'être au travail, le plus important, c'est d'être avec ma famille. Mais
Ouais.
ça sera, enfin, genre, ça sera un sacerdoce, quoi, tu vois. C'est possible
OK.
que y ait, tu vois, il y a un peu un duel entre ce que moi je ressentais sans me l'avouer et la loyauté par rapport au modèle éducatif que j'avais eu. Tu vois,
Ouais, aussi,
peut-être
ouais.
qu'il y
Non,
avait
tout à
quelque
fait.
chose comme ça. Et puis, bon, moi je suis du genre à me dire les autres sont pas plus cons que moi. Donc s'ils me disent que c'est compliqué, que c'est chiant, que les gosses c'est tout le temps en train de vomir et compagnie, parce que c'était vraiment ce qu'on me dépeignait. Je me suis dit, ok, ils savent mieux que moi. Eux, ils ont des enfants, tu vois.
Ouais.
Donc, je suis partie comme ça. Et en fait, à la naissance de Meïssa, bon, déjà, l'accouchement s'est mal passé puisque j'ai eu une césarienne. Bref, c'était très compliqué. J'ai fait une grosse dépression du postpartum qui a duré 18 mois. Et en fait, je pense que cette dépression, au-delà du fait qu'elle est en partie due aux conditions de la naissance de Meïssa, je pense aussi que c'est le delta, en fait, entre ce que je voulais faire et ce que j'avais besoin de faire. Parce que vraiment, c'était un besoin de la garder avec moi, c'était un besoin de l'allaiter, qu'elle dorme avec moi, que je la porte, que je m'en occupe tout le temps, que je ne fasse que ça. J'en avais besoin, en fait, et je ne pouvais pas faire autrement. On avait beau me dire, laisse-la pleurer, ça lui fera les poumons, pose-la, sinon elle va
Ouais.
faire des caprices. Voilà, tu sais, et... Tu sais, t'as un côté qui te dit, putain, ils ont sans doute raison. Ils ont sans doute raison, ils savent mieux que moi, ils ont déjà eu des enfants et tout ça. Et puis, il y a ce que tu ressens vraiment intrinsèquement où tu te dis, je ne peux pas faire autrement que materner. Voilà,
Ouais. OK. Et
le mot est lâché.
c'était ton besoin ou c'était
Oui.
et ou c'était parce que tu ressentais que Meissa avait le besoin ou alors c'était les
Alors,
deux parce que ça se
c'était
rejoignait.
les deux. C'était les deux. Et là, bon, j'anticipe un peu, mais et là, avec Selma, donc ma deuxième, je me rends compte que probablement que Meïssa, alors je pense qu'aussi les conditions de la naissance ont beaucoup joué dans
Oui.
leur différence de tempérament, mais je vois bien que Selma est totalement différente. Alors, je la materne autant que Meïssa, mais c'est différent. Mais j'ai pas besoin d'être collée à Selma. Selma, j'accepte que pendant 5 heures, par exemple, elle parte avec son père. Et je m'inquiète pas.
D'accord. OK.
Je suis pas extrêmement mal à me dire, oh là là, est-ce qu'elle pleure? Est-ce que si, est-ce que ça? Alors qu'avec Meïssa, alors, pendant la thérapie, la psy, Meïssa devait avoir, je sais pas, 8-9 mois. Elle m'avait conseillé de partir sans ma fille pendant quelques heures. Je suis partie faire les courses. Ça a duré 45 minutes. J'ai fait une crise d'angoisse dans le magasin. Je n'arrivais même plus à respirer parce qu'elle était loin de moi.
Ouais, d'accord. Ouais,
Donc,
ouais c'était ta bouteille d'oxygène en fait.
Ah oui,
C'était tu
ah
pouvais
ouais, c'était
pas.
tout quoi.
Ouais,
Je
je me
pouvais rien
reconnais
faire
bien
d'autre.
là-dedans les premiers mois. Ouais, je me reconnais bien là-dedans.
Et moi, ça a duré très longtemps. Les premières fois où j'ai vraiment laissé Meïssa, c'est pour faire ma formation de monitrice de portage. Et alors, attention, j'avais fait monter mon mari parce que la formation était à Lille. Moi, j'habite à Limoges, donc c'est à 6 heures de train. J'avais fait monter mon mari parce que ça a duré une semaine avec ma fille, parce qu'il était hors de question que je parte une semaine sans ma fille. Donc, il avait pris une semaine de congé et j'avais loué un appartement en Airbnb dans la rue. Dans la rue du centre de formation. Voilà. Au cas où, tu vois, au cas où il y avait quelque chose, je dois partir, il me l'amène ou n'importe, on se débrouille. Mais voilà, il fallait qu'elle soit pas loin. Donc, elle n'était pas avec moi physiquement dans la salle. Je rentrais le midi. Mais voilà, c'était vraiment une minute trente à pied. Voilà. C'était
Ok, ça
mon
te
max.
rassurait quoi. T'étais
Voilà.
bien,
Ça me rappelle.
t'étais bien comme ça.
Comme ça allait, ça allait, ça allait. Alors que tu vois, maintenant, je peux partir, je regarde pas mon téléphone toutes les 30 secondes, mais parce que voilà, elle a grandi et Selma, bah, elle est différente. Et moi, je suis différente aussi.
Est-ce que c'est pas lié au fait que Meïssa
Alors,
c'était ta première?
Je pense que ça peut être dû au fait que c'est la deuxième, mais je suis pas sûre parce que j'ai toujours beaucoup plus d'angoisse pour Meïssa que pour Selma, alors que Meïssa a déjà 4 ans, qu'elle va à l'école et compagnie.
D'accord. Ouais.
C'est toujours plus compliqué. Voilà. On n'a pas la même relation, c'est tout, c'est différent. Ça ne veut pas dire que je l'aime moins ou quoi que ce soit, mais juste
Oui,
c'est
bien
différent.
sûr.
C'est, voilà.
OK.
Mais bon. Mais par contre, voilà. Donc moi, en fait, je suis mère au foyer comme je voulais. Par contre, clairement, j'ai pas du tout la même vie que ce que j'imaginais, quoi.
Et parce que tu nous as dit que tu avais fait une dépression postpartum, donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de d'y
Oui, on
revenir
aura l'occasion d'en
dans un
reparler.
autre épisode. Mais
Oui.
ma question initiale était quand même, est-ce que tu arrivais à faire une balance entre ta vie de mère et ta vie pour toi-même? Et
Non,
du
aucune.
coup, d'accord, ok. Et
Aucune.
est-ce que ça
Et
t'a
en...
manqué ou pas? Parce qu'en fait,
Non.
c'est... D'accord.
Alors,
Parce que
ça m'a
c'est
pas
ça aussi qui est
manqué.
le plus important, c'est
Oui,
que
oui,
parce
oui.
que parfois on peut ne pas avoir de vie pour soi-même, mais si ça nous embête pas, c'est pas un problème en
Alors,
soi, quoi.
oui, c'est vrai, ça m'a
Je sais
pas
pas.
manqué. Ça m'a pas manqué. Par contre, il est à noter que pendant ma grossesse pour ma deuxième, j'ai fini en hôpital psychiatrique pour un burn-out en toute fin
D'accord.
de grossesse et que clairement, depuis ça, j'ai appris à prendre du temps pour moi et à le prendre sans culpabiliser et surtout à m'astreindre vraiment à le faire et pas me laisser emporter par le tourbillon. Parce que c'est ça en fait, c'est le tourbillon de la vie qui fait que oui, je vais prendre du temps pour moi, mais en fait, ah, il y a ça, ah, j'ai pas fini de plier le linge, ah, mais attends, voilà. Voilà. Donc maintenant,
Oui.
je m'oblige au moins une fois par semaine à prendre plusieurs heures pour moi. Pour penser à autre chose, faire autre chose, parce que vraiment pendant 3 ans, parce que ça a duré 3 ans, pendant 3 ans, ma vie, ça n'a vraiment été que mon enfant. Et c'est tout.
Oui, puis
Rien d'autre.
ouais. Puis même si tu te si tu le sens bien, tu as quand même fait un burn-out, donc ça veut dire quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Un burn-out et une dépression, c'est qu'il y avait quelque chose quand même qui allait pas dans l'équilibre, peut-être.
Oui,
Je sais
il y a
pas,
quelque chose
c'est une question.
qui allait. Ah non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, la dépression, bon, c'était quelque chose. Le burn-out, bon, c'est multifactoriel, hein, de toute façon. Mais
Oui, bien sûr,
clairement, il y
oui.
avait le fait que je ne faisais rien pour moi. Mais attention, je ne faisais rien pour moi aussi parce que j'en avais pas l'occasion.
Oui.
Ouais. Hein, voilà, on va pas se jouer de la
Voilà.
flûte. À un moment donné, quand tu es toute seule pour tout faire. Il faut faire et t'as pas le choix que
Donc ça nous ramène au problème de garde. Donc est-ce que tu
Voilà.
avais quand même ce que tu disais, du coup, les grands-parents pour un week-end, donc on a bien compris que c'était non parce que tu n'arrivais pas à te détacher, mais
Voilà.
est-ce que quand elle était peut-être un peu plus grande ou je sais pas,
Alors oui.
est-ce que c'était
Alors
seulement parce que tu pouvais pas te
sinon.
détacher ou il y avait d'autres choses?
Après, il y a d'autres choses aussi dans le mode de garde. Donc moi, il y a mes beaux-parents et mes parents. Mes parents, eux, ils travaillent. Mes beaux-parents travaillent pas. Donc ils sont plus disponibles que mes parents. Sauf que ma fille n'aime pas aller chez mes beaux-parents pour ses
D'accord.
raisons à elle et puis aussi pour les miennes. Et du coup, c'est compliqué. Et il y avait après un espèce de comment? De conflit avec mon mari, oui, non, mais elle va pas chez tes parents si elle va pas chez mes parents, et ainsi de suite.
OK.
Donc ça bloquait ça aussi. Après,
D'accord.
j'ai des amis qui pouvaient éventuellement s'occuper de Meïssa, mais là, c'est mon mari qui n'était pas d'accord, parce que c'est pas de la famille, donc non, voilà. Donc en fait, si
Ok.
tu veux, à chaque fois qu'il y avait une porte qui s'ouvrait pour qu'elle soit gardée finalement, elle se refermait automatiquement pour une raison ou pour une autre.
Et mode de garde payant, c'était même pas
Ah, c'était même pas
envisageable ou c'est...
envisageable. Même pas
Ok.
envisageable.
Parce que vous ne
Même pas
vouliez
envisageable.
pas.
Alors déjà parce qu'on ne voulait pas, et puis aussi parce que, comme tu as dit, c'est payant.
Ouais.
Voilà. Moi, je suis mère au foyer, mon salaire, c'est zéro.
Oui.
Je touche pas de congé parental ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je n'ai aucun revenu, vraiment zéro. Après, bon, maintenant, j'ai mon entreprise de monitrice de portage. Bon, là, avec le Covid... Voilà, mais j'ai que ça en fait, et c'est très 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 faible parce qu'une fois que tu as payé les charges, le matériel et tout ça, il reste vraiment pas grand-chose. Donc je vais pas en plus prendre mon argent pour payer un mode de garde. Non,
Ouais.
voilà,
Ok. Ouais,
le mode de garde là, c'est papa, c'est tout.
Ok, bah, je vais rebondir là-dessus parce que moi aussi, c'est beaucoup ça que j'ai pensé, mode de garde, comme bah, du coup. Ah oui, donc j'en étais arrivée au avant la naissance. Donc du coup, j'ai su ce que c'était un bébé après, vu que j'en ai eu un. Et puis, donc du coup, à 2 mois et demi, comme je vous avais dit, là, j'ai eu un entretien d'embauche. Sauf que j'ai. Donc du coup, j'ai cherché. On a cherché, bah non, j'ai cherché parce que ça aussi, voilà, de ce que j'entends et de mon expérience personnelle, donc ça ne vaut absolument pas statistique. C'est quand même les femmes qui s'occupent de ça parce qu'en fait, ça remplace les femmes, puisque un,
C'est
même
ça.
le nom le dit, assistante maternelle. Ça
C'est ça.
n'assiste
Est-ce
pas
que je
les
peux
pères,
rebondir
ça
pour dire
assiste les
que le
mères, hein,
Luxembourg,
voilà.
c'est assistant parental au Luxembourg. Donc c'est un peu plus avancé.
Oh, amen, ouais. Donc voilà. Donc j'ai cherché une assistante maternelle et bah c'était problématique parce que comme tu disais, bah en fait le problème en France. Alors je sais pas du tout comment c'est au Luxembourg, mais la formation pour les assistantes maternelles est de 120 heures. Donc 120 heures. C'est pas grand-chose, hein? On va être d'accord
Non,
qu'il faut
ouais,
le
non.
bac et 120 heures de formation. C'est vraiment pas grand-chose. Alors attention, je ne dis pas que tous et toutes les assistants, assistantes maternelles sont nuls. C'est absolument pas ce que je dis, hein? Je pense que c'est juste que ça vient d'initiatives personnelles pour se former, parce que par contre, il y a beaucoup de formations en continu. Voilà. Mais au niveau institutionnel, on n'est pas sur une professionnalisation du métier.
Ouais,
Donc,
entièrement d'accord.
du coup, c'est vrai que moi, je suis arrivée chez les assistants et les assistantes maternelles avec un gros problème, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de passer pour condescendante, mais je vais le dire comme je le pense, je connaissais plus de choses sur le développement de l'enfant que la personne à qui je m'adressais. J'en ai pas fait beaucoup, hein, donc si ça se trouve, je serais tombée sur quelqu'un qui savait beaucoup plus que moi, mais dans l'expérience que j'en ai eue, c'est pas le cas. Du coup, ça valait pas. Il y en a une, je lui demande la télé pour les enfants, comment ça se passe, parce qu'elle avait un grand écran dans son salon, l'endroit où il y avait les enfants. Elle me dit, ah oh, bah, je peux pas vous promettre qu'il verra jamais la télé. Ok, bon, je le mets pas chez l'assistante maternelle pour qu'il regarde la télé, quoi.
Non.
Donc voilà. Ensuite, une autre qui dit, s'il dit pas bonjour, il reste à la porte. Bon, je pense que c'était une blague, mais j'ai pas trouvé ça
Ouais.
drôle du tout. Je me suis dit,
Ouais.
ok, d'accord. Voilà, il y avait très peu de place pour la motricité libre. Voilà, c'était quand même. Beaucoup de choses, alors il y avait beaucoup de choses très bien, mais il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Et comme tu disais, Émilie, par rapport aux valeurs, voilà, c'était forcément que ça n'allait pas être quelqu'un comme moi, mais j'attendais quand même des valeurs communes. Donc, du coup, c'était compliqué. Ensuite, la crèche, bah, là où j'étais, il y avait juste une crèche itinérante. Donc,
D'accord.
c'est-à-dire que en fait, donc moi j'habite en campagne, dans la campagne profonde. Donc, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est une crèche itinérante, en fait, c'était les communes qui prêtaient une salle, donc salle des fêtes ou etc. Et donc, du coup, ils mettaient, mais ils avaient un camion avec les jeux, et puis du coup, ils mettaient les jeux dans la salle, et puis voilà quoi. Et puis c'était une salle différente pour
Oui, à
que,
chaque
bah
fois.
voilà, parce que voilà, c'est tous les jours il y avait une salle différente. Donc je me suis dit, pour un tout petit, je voyais bien que c'était quelque chose qui lui importait d'être toujours au même endroit. Dès qu'il était dans un endroit qu'il connaissait pas, c'était compliqué. Donc je me suis dit, s'il change tous les jours d'endroit,
Oui.
oh, la
C'est
galère.
un peu
Donc
perturbant quand même,
voilà.
c'est sûr.
Donc et puis de toute façon, à 2 mois et demi, c'était impossible. Comme toi, j'ai eu un petit peu ce sentiment, peut-être moins fort, mais ce sentiment de ne pas pouvoir me décoller de mon enfant. C'est parti vers 8 mois à peu près, je pense. Bah, c'est parti. Genre, j'en veux plus maintenant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, non, mais je veux dire que j'ai eu envie de faire autre chose à partir de 8-9 mois. Donc, j'ai retrouvé un poste et là, j'ai eu mon entretien et tout. Sauf que là, impossible de trouver une garde parce que, bah, pareil, pas d'assistante maternelle qui nous convenait. Et en plus, alors ça, il faut le dire parce que ça, c'est pas mon. Il n'y a pas que moi parce que je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. En fait, on avait fait exprès avec mon mari que je trouve un travail à des horaires différents des siennes pour que Charlie, donc mon enfant, soit gardé le moins possible. Sauf que du coup, ça faisait un total d'heures où il devait être gardé de 25 heures, je crois.
Ah oui.
Et les assistants et les assistantes paternelles, ce que je comprends, parce qu'on est quand même dans une dimension économique, hein, ne veulent pas prendre de petits contrats.
Ben
Ou
oui.
alors, c'est parce qu'ils ont déjà un petit contrat et que, comme par hasard, ça colle. Mais en plus, mon mari et moi, qui travaillons dans le tourisme, on travaillait le samedi, donc
Ah
c'était
oui.
impossible de trouver quelqu'un.
Mmh.
Donc voilà.
Ouais.
Et je voulais quand même appuyer sur ce point-là parce que donc en France, on n'est pas capable de fournir une solution de garde à des parents qui ne veulent pas trop faire garder leur enfant.
Si je peux rebondir, en fait, je l'ai pas précisé quand j'ai parlé de la garde, mais moi j'étais exactement dans cette situation-là aussi, puisque je ne travaillais que à 40% et qu'en plus, ben, mon emploi du temps change, mais littéralement d'une semaine à l'autre, vu le système de mon école actuelle. Et c'était très, très, très difficile de trouver une personne qui ait, un, les mêmes valeurs, et deux, qui s'accommode, entre guillemets, de venir garder juste un matin lundi, juste l'après-midi le mercredi, et que ça change d'une semaine à l'autre. Et c'est vrai
Ouais,
que pour
ouais.
ça, on n'a pas trouvé de bonne solution.
Mais après, c'est vrai que ça peut être compliqué pour une personne de gérer un seul contrat, en fait, avec très peu d'heures. Ça peut se
C'est
comprendre,
ça.
quoi.
Ah oui, non, mais tout à fait, hein. Ouais.
Mais c'est vrai que même pour les crèches et tout, je sais que là, moi, il a été question, on m'a dit, enfin, la psy m'a dit, oui, il faudrait que vous fassiez garder Selma au moins une fois de temps en temps pour faire quelque chose et tout ça sans devoir compter sur votre mari. Donc j'avais contacté la crèche parce que contre toute attente pour Selma, la crèche, je pense que ça pourrait le faire. Et en fait, bah non, si c'est pas au moins une fois par semaine, c'est pas la peine. Oui, mais moi, j'ai pas besoin d'une journée par semaine à la crèche, en fait. Moi, j'ai besoin
Ouais.
d'une matinée toutes les 2 semaines, par exemple. Ah ben non, ça va pas, ça. Donc il faudrait la faire garder plus que ce dont j'ai besoin pour pouvoir la faire garder moins. C'est.
Oui.
Non, c'est.
Oui. Et puis
Ça peut pas.
aussi financièrement, il faut dire aussi que financièrement, moins d'heures on le met, notre enfant, plus le taux horaire est
Et cher.
important.
Oui, c'est
Oui,
vrai, ça
parce
aussi.
que nous, on passait d'un taux horaire de à peu près 3 euros si on mettait 40-45 heures à un taux horaire à 5,25 € ou 30, je crois, si je le mettais 20 ou 20 heures, quoi.
Oui,
Donc,
non, mais
du
ça
coup, ça me
change tout,
faisait
hein.
quasiment plus cher de le mettre peu que de le
Oui,
mettre
que.
beaucoup, quoi.
Non,
Donc,
tu fais.
voilà. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvée à être femme. Ah non, j'aime pas ce mot-là. Être parent au foyer. Non, c'est pas que j'aime pas le mot femme. Hein. Je vais faire. Mais là, il y a toutes les conversations avec Émilie qui me reviennent en tête. Non, je n'aime pas être appelée femme au foyer. Voilà. Mais je suis parent au foyer. Donc, j'ai été obligée d'être parent au foyer pendant. Bah là, ça fait combien de temps? 2 ans et demi. Ouais, il a 2 ans et demi, mon enfant, parce que je ne trouve pas de solution de garde pérenne, en fait. Ou pas, c'est pas trop cher. Alors moi, par contre, j'ai eu de la chance de déménager. Bah non, c'est pas que j'ai eu de la chance, c'est qu'on a créé cette chance, puisque voilà, on a dit stop, j'ai besoin de relais à un moment donné. Donc du coup, on est venu s'installer près de nos parents. Du coup, j'ai du relais de ma belle famille, de ma mère un peu moins, mais un petit peu, et la crèche de la ville où je suis. Donc là, c'est une crèche au même endroit tout le temps. Donc
Oui.
voilà, c'est plus simple. Et puis il est plus grand aussi, hein, donc on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus facile quand il est plus grand. Il a maintenant 2 ans et demi du coup. Et la crèche accepte, là par exemple, il est de 8h45 à 12h45. Donc voilà, j'ai des petits relais. En gros, j'ai un contrat occasionnel. J'appelle ça un contrat bouche-trou, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas de place, ils me disent, voilà, on peut prendre Charlie de cette matinée-là, ou 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Donc voilà, moi, c'est l'équilibre que j'ai réussi à trouver à partir de ces 2 ans, ce qui est allé à partir de ces 2 ans, pour faire des choses un peu plus pour moi. Donc, comme par exemple faire le podcast. voilà. Mais par contre, du coup, je paye. Je paye.
Ah
Voilà.
oui, ça.
Je n'ai pas d'argent pour être parent au foyer. Donc, c'est sur le salaire de mon mari. Voilà. On ne gagne pas des masses, du coup. Mais voilà. C'est que je paye. C'est un sacrifice financier que je fais parce que c'est primordial pour moi et pour lui aussi parce que lui il aime beaucoup aller à la crèche mais voilà. Donc voilà mon expérience un petit peu par rapport à ces modes de garde.
Ouais. Non, mais c'est toujours des choix qui sont compliqués, et puis tu les réfléchis d'une façon en te disant ça va se passer comme ça, puis ça se passe autrement, ça remet tout
Oui.
en question, tout tombe à l'eau au dernier moment et tout ça. Et je pense on a ce genre de problématique aussi parce que on est concerné par ce que peuvent vivre nos enfants. Mais si tu occultes ça, concrètement, bon, tu mets ton enfant à la crèche et puis tu vas travailler, quoi.
Oui.
Moi, je pense que ça serait plus, enfin, que ça serait plus simple pour moi, mais d'un autre côté, plus compliqué parce que là, je le vois avec l'entrée à l'école, les horaires avec des enfants, quel calvaire.
Ouais, c'est... Ouais.
Oh là là. J'ai jamais autant dit, mets tes chaussures de toute ma vie. Mais vraiment, c'est invraisemblable. Tous les matins, tous les midis, mets tes chaussures 18 000 fois environ. C'est voilà. Donc je me dis, si je devais en plus gérer, il faut aller au travail, il faut être à l'heure, sinon le patron va râler et ce genre de choses, ça serait vraiment compliqué. Mais bon, d'un autre côté, t'as autre chose, quoi. Tu fais autre chose.
Et il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter sur le mode de garde en termes de valeur et tout. Alors, c'était pas trop bon. Je faisais quand même attention à avoir quelqu'un qui ne soit pas dans les violences éducatives ordinaires. Mais on va dire que mon plus gros point, c'est
Ce que
en
tu
fait,
voulais.
je voulais qu'il apprenne des choses, en fait. Les enfants à cet âge-là, ils apprennent mais tellement. Et en fait, j'avais pas envie de quelqu'un qui soit juste là pour qu'il passe du temps, en fait. Voilà.
C'est
Moi,
ça.
j'ai pas envie que mon enfant il passe son temps. J'ai envie qu'il apprenne, qu'il fasse ce dont il a besoin, qu'on lui mette des activités à disposition s'il a besoin de faire des activités. Voilà. Moi, il est en forte demande là. Il me demande tout le temps du transvasement. J'arrive pas à prendre le temps de lui faire des trucs et ça m'embête. Que soit pas capable de proposer quelque chose aux parents, aux enfants pour qu'ils puissent apprendre. C'est clairement quelque chose que voilà, des ateliers Montessori, mais moi j'aimerais bien y aller avec lui aussi, hein, être là avec lui, le regarder évoluer et tout, mais j'ai pas la capacité à créer plein de choses. Et on va être très clair, ça me fait chier de le regarder faire des trucs. Voilà. Alors, s'il y a d'autres parents à côté et que je peux discuter en même temps, alors là, mais il n'y a aucun souci. Mais
Oui.
par contre, le regarder, et là, je suis vraiment admirative de ces parents qui arrivent à le faire, mais qui, non, c'est pas arriver à le faire, qui prennent du plaisir à le faire, parce que moi, j'arrive à le faire, mais je prends pas de plaisir. Et c'est OK, parce que chacun, il y a plein de trucs que je fais beaucoup mieux que certains parents, et il y a beaucoup de trucs que certains parents font beaucoup mieux que moi, et c'est normal, parce qu'on n'est pas tous pareils, et heureusement. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'aurait manqué, c'est que Charlie il puisse faire. Et par contre, à la crèche, ça commence à bouger. J'ai vu qu'ils ont fait un petit coin Montessori et tout, et c'est pour ça que je le mets aussi, c'est pour qu'il puisse faire des trucs que j'arrive pas à lui faire faire avec moi, en fait. Non, mais je voulais revenir à Émilie.
Oui.
Si tu as envie de rajouter quelque chose, parce que tu as dit la deuxième année, ça s'est pas passé.
Ah
Bah, ça,
oui, pour la
vous,
garde.
voilà. Donc, est-ce que tu veux partager ça avec nous ou pas
Oui,
trop ou...
non, si. De toute façon, les personnes qui me connaissent connaissent un petit peu l'histoire, mais ça me dérange pas de la raconter parce que je trouve que c'est important d'en parler aussi et du coup que ça explique aussi un petit peu la position de parents comme moi qui ont beaucoup de mal du coup à faire garder leur enfant par une personne inconnue. Disons que à la base c'était pas un problème que moi j'avais. Je voulais pouvoir laisser mon enfant vraiment, même si c'était dur, même si je voyais que pour elle la séparation était difficile, je voulais pouvoir le faire parce que j'en avais besoin. Et donc vraiment, je me suis pliée en quatre pour trouver une personne parce que alors je me suis plié en quatre, je tiens quand même à dire que mon conjoint a participé. C'est quand même important de le dire quand il participe, hein. Il a participé au choix des personnes qu'on a recrutées, hein, pour surveiller, garder Charlotte à la maison pendant que j'allais travailler et qu'il allait travailler aussi. Et puis bon bah on a, comme je disais, la deuxième année, on s'y est pris à l'avance, on a fait un vrai recrutement. Et on a sélectionné donc une personne qui eh bien sous était bien sous tout rapport, vraiment ça nous son discours nous plaisait beaucoup. Spoiler, on s'est trompé, hein, mais voilà, j'aimais qu'elle soit jeune et que parce que Charlotte interagissait mieux avec les personnes jeunes quand elle les connaissait pas. Alors, sauf que un jour on a commencé à avoir des doutes sur cette personne. Il y avait plusieurs petits signes que j'ai vus après, si vous voulez. Je pense qu'à l'époque j'avais pas envie de les voir. C'est très difficile pour moi de l'avouer, mais je pense que j'avais pas envie de les voir parce que ça m'arrangeait, parce que je me disais c'est bon, on a trouvé une personne et moi je peux aller travailler l'esprit tranquille. Donc j'ai remarqué ces petits changements-là après. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai reçu un SMS de cette personne. Quand j'étais au travail, hein, j'étais en cours. Bon, je devrais pas regarder mon téléphone en cours, mais bon, je le fais. Hein, voilà. Sachez que les profs le font en cours. J'ai lu le SMS qui disait qu'en gros Charlotte lui avait craché au visage. Alors sachez, elle ne savait pas cracher à l'époque. Lui avait craché au visage et que donc elle avait dû marquer le coup. Voilà, ce sont ces mots. Elle avait dû marquer le coup. Et j'étais en cours, hein, je vous avoue que j'ai commencé beaucoup à paniquer. Je pouvais pas du tout rentrer là tout de suite, hein, quand on a une vingtaine d'élèves devant soi, on peut pas partir comme ça, hein. Mais j'avais juste simplement répondu sous le bureau, on en parlera quand je rentrerai. Et donc quand je suis rentrée, je suis jamais rentrée aussi vite chez moi de ma vie. Tu disais, Pauline, que toi, tu avais
M'étonne.
besoin d'être près de ton enfant, même quand tu étais loin, on va dire. Moi, c'était pareil. À l'époque, j'habitais à 10 minutes à pied, hein, de mon école. J'ai couru. Et puis, quand je suis montée, Charlotte dormait. Elle dormait, il était midi. À cette époque-là, Charlotte ne dormait pas toujours le matin. Elle n'arrivait pas toujours à la faire dormir le matin. Mais quand elle dormait, c'était plutôt vers 9 h. Donc, ça m'avait étonnée qu'elle dorme encore. Et donc, j'ai simplement demandé, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bon, bah, le discours a complètement changé, hein. Le discours, c'était, ah non, 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 en fait, elle m'a craché dessus, mais je comprends, je pense qu'elle a été agacée, mais je lui ai simplement dit qu'il fallait pas le faire. Et puis voilà, mais vous inquiétez pas, j'ai pas crié, je l'ai pas tapé, non, non, tout va bien. Et c'est vrai que ça a éveillé des soupçons, hein, même si elle avait changé de discours. Et bon, s'il s'est passé quelques jours entre cet événement-là et des grosses discussions avec mon conjoint. Et malheureusement, nous avons découvert que Charlotte subissait des maltraitances. Et ce que je raconte là, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est pas pour faire peur aux mamans qui font garder leur enfant. C'est vraiment pour dire que ben moi, j'avais aucune idée de ce que ça se passait en fait. J'avais aucune idée. Là, j'ai commencé à additionner tout ce qui se passait, les changements de comportement, le fait que le matin, quand ils allaient promener les chiens, parce qu'il y avait toujours un moment où en fait mon conjoint sortait avec donc la nounou et Charlotte pour sortir les chiens, histoire de faire une transition entre son départ, parce que moi je partais souvent avant, et que Charlotte reste seule donc avec la nounou. Au début Charlotte marchait, promenait les chiens, etc. Et puis vers la fin, en fait, ne voulait pas se décoller des bras de mon conjoint. Elle voulait pas te poser, elle restait, voilà. Et c'était de pire en pire au niveau de la séparation. Et en fait, tout ça, je le voyais pas, on le voyait pas, on voulait pas le voir. Et puis on a commencé du coup à se dire, ah mais en fait cette griffure, on sait pas d'où elle vient. Maintenant je comprends que quand je rentre de l'école vers midi, que c'est l'heure qu'elle fasse la tétée pour s'endormir, ben en fait d'habitude je pouvais la poser sans problème dans son lit. Et après je pouvais plus la poser, elle s'accrochait à moi. Et à cette époque-là, Charlotte commençait à parler, hein, elle avait 18 mois, mais c'était des mots, hein. Vous savez, à 18 mois, ils font pas encore, enfin, très peu d'enfants font déjà des phrases bien construites pour nous dire ce qui se passe. Mais voilà, c'était des petits détails, vraiment des petits détails qu'on a commencé à additionner. Donc Charlotte avait, voilà, elle avait 18, 19 mois quand on a arrêté complètement tous les modes de garde suite à cet événement. Juste voilà pour peut-être rassurer les gens qui connaissent pas, Charlotte va très bien aujourd'hui, hein. Je suis allée l'emmener voir des psychologues pour spécialisés pour la dans la maltraitance infantile, qui ont déterminé que vraiment ça allait bien en fait. C'était plutôt moi qui allais mal par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de comment dire de culpabilité parce que bah, je me suis dit comment j'ai pu ne pas le voir, comment j'ai pu la laisser avec une personne avec ce monstre en fait, hein, avec un monstre pareil, etc. Mais aujourd'hui là-dessus ça va mieux, hein. Mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école, on a décidé de ne plus du tout la faire gardée par aucun mode de garde. C'était moi quand je ne travaillais pas, et c'était donc mon conjoint quand moi j'étais au travail. Il a sacrifié entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais énormément d'heures de travail pour rester avec elle pendant que moi j'étais au travail jusqu'à temps donc qu'elle aille à l'école seulement cette année. Voilà.
Ouais.
Ok.
Ça m'a donné la chair.
Le fait que, je pense que ça sonne, ça fait résonner quelque chose en toi, Pauline, parce que tu stresses en fait de pas savoir ce qui se passe quand elle va à l'école, etc. Donc forcément, ça doit te. Moi, je savais pas ce qui se passait, je savais pas ce qui se passait, et donc du coup, c'est ça qui était le plus dur pour moi, c'était de penser qu'elle était entre de bonnes mains, d'en être
Ouais.
convaincue, de le dire à qui voulait l'entendre, que j'avais enfin trouvé la perle rare, qu'on avait pris le temps de chercher une personne, que vraiment, voilà. Et puis qu'en fait, cette personne maltraitait Charlotte. En fait, moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est de me dire, mais en fait, n'importe qui aurait pu avoir ce comporte-là avec mon enfant sans que je le sache. Et ça m'a vraiment. C'est comment moi, hein, je réfléchissais. Hein. C'est pas pour dire que n'importe qui peut le faire. Mais moi, après, dans ma tête, c'était ça. Je me disais, mais ça se trouve, ma propre mère lui a déjà hurlé dessus. Ça se trouve, ma belle-mère a eu des gestes violents, alors que je sais que ma belle-mère serait. Enfin, ma belle-mère, je la connais mieux quand même. Donc, je me dis, c'est impossible qu'elle ait pu avoir des gestes violents. Mais c'en était venu à ce point-là où je me disais, en fait, toutes les autres personnes que je connais pas, à part mon conjoint, en qui j'ai une confiance absolue, je ne peux pas leur faire confiance. J'ai aucune confiance en aucune personne qui puisse, voilà, être avec mon enfant seule. J'ai complètement perdu confiance voilà, dans les modes de garde. Et du coup, ça a été très difficile parce qu'on n'a plus jamais laissé Charlotte. Bon, après, il y a eu de brèves, brèves, brèves fois où on a laissé à ma belle-mère parce que j'ai quand même plus confiance en ma belle-mère. Mais ça a été toujours très court parce que du coup, Charlotte n'aime pas du tout être gardée. Hein. Et jusqu'à temps qu'elle rentre à l'école et que je vois comment ça se passe et que en plus ce soit un mode de, enfin c'est pas un mode de garde, mais que ce soit quelque chose de collectif, eh bien j'ai stressé jusqu'à sa rentrée à l'école, jusqu'à temps que je vois qu'en fait à l'école ça se passe très bien quoi.
Ah oui, non. Alors ça, je comprends tout à fait, quoi. Et moi, ça arrive encore que parfois elles me disent des choses où j'ai envie de retourner l'école, quoi. J'ai envie de tous les monter en l'air, mais je le fais pas et je peux pas parce que voilà, parce que c'est des phrases comme t'es pas belle, t'es méchante, juste parce qu'elle demande à aller aux toilettes, enfin ce genre de trucs. Et pour la plupart des gens, c'est rien. Quand t'en parles avec d'autres parents, ils disent ah oh ouais, non, mais ça c'est rien. Non mais moi, pour moi, c'est pas rien en fait. C'est pas rien du tout. Dire à ma fille t'es pas belle parce qu'elle demande à aller aux toilettes et que ça te dérange parce que c'est l'heure de la sieste. Bah non, en fait.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, je sais pas du tout pour dire que c'est pas que c'est rien, parce que je suis d'accord que c'est pas rien. Par contre, je suis désolée, on va faire la dernière question parce que je pense qu'on a beaucoup beaucoup parlé, donc on va
Ouais,
essayer
ça
de
va être un peu
ramener
tôt pour vous là.
le sujet à la conclusion. Alors, avant, j'avais une question et tu as partiellement répondu, Émilie, donc on va peut-être recommencer par toi parce qu'on t'a pas assez entendu. On aime ta voix, on a envie de
Oh,
l'entendre.
merci,
Non, je rigole. Non, mais je rigole parce
merci.
que c'était très, très important de dire ce que tu as dit. Mais ma dernière question, c'était, on a parlé de nous, de ce que ça change. Dans notre vie, nous, en tant que mère, donc on a vu que bah, toi, tu avais réussi à garder ton emploi, mais Pauline, bah, elle avait fait le choix de ne plus avoir d'emploi. Moi, je n'ai plus pu avoir un emploi à cause de ma maternité. Donc c'est bien parce qu'on a toutes les trois des parcours différents. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était et nos conjoints. Comment ça s'est passé pour eux? Alors très brièvement, est-ce que eux ça leur a autant changé la vie que nous. Alors, je suis désolée, je fais des disclaimers à chaque fois. Donc, on va parler de nos expériences personnelles, mais c'est quand même très sourcé, très appuyé par des études que la parentalité a des effets néfastes sur la carrière des femmes, beaucoup moins sur la carrière des hommes. Donc, cette question-là, c'est vraiment pour rentrer plutôt dans un point politique, féministe. Donc, je voulais savoir, dans votre expérience personnelle à vous, par rapport à toi, Émilie, la garde de Charlotte, bah, la garde ou la non-garde de Charlotte, toi, Pauline, avec Meïssa et Selma, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de votre conjoint au niveau professionnel et vie sociale? Émilie?
Bah alors, évidemment qu'avec ses soucis de garde, hein, ça lui a quand même changé la vie à ce niveau-là, au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il a dû s'adapter aussi au fait bah, d'avoir un enfant, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même dû changer ses horaires, il a quand même dû travailler moins, donc gagner moins, puisqu'il est indépendant, mais quand même pas point où moi je suis allée. C'est-à-dire que moi j'étais niveau carrière j'étais quand même arrivée à un stade plutôt haut hein, on va dire. J'étais très reconnue on va dire dans mes écoles etc. Mais lorsque je suis passée à mi-temps même moins de mi-temps donc à 40% honnêtement je suis devenue un fantôme dans mon lieu de travail, hein, les gens ils me voient passer, ah t'es là aujourd'hui, voilà. Ma voix ne compte absolument pas pour les décisions, pour le département, etc. Parce que je ne peux même pas assister aux meetings, aux réunions la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est quand même un deuil que j'ai dû faire, un sacrifice que j'ai dû faire que mon conjoint n'a pas dû faire. Lui, tout ce qui a changé pour lui à ce moment-là, c'est de diminuer ses heures de travail ou de les changer. Mais c'est tout. Il conduit toujours sa barque, il a toujours la même importance parce que forcément, c'est lui le chef d'entreprise. Donc voilà. Donc il y a que ça qui a changé vraiment pour lui, c'est qu'il a dû s'adapter quand même au fait d'avoir un enfant qu'il faille garder à la maison. Après, au niveau social, moi, c'est vraiment, vraiment différent de lui. Moi, une fois que je suis devenue mère, j'ai eu zéro vie sociale. C'est-à-dire que toute ma vie sociale, je l'ai laissée dans les pays que j'ai laissés, mais aussi en devenant mère. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au Luxembourg, que j'étais enceinte, j'avais beaucoup de vie sociale avec mes collègues à l'école. On sortait, on faisait des restos le soir, on faisait le marché de Noël ensemble, des trucs comme ça. À partir du moment où je suis devenue mère, je n'ai plus eu de place pour les liens sociaux, en fait, pour la vie sociale, en tout cas dans ce pays-là. Et c'est quelque chose
Oui.
vraiment qui a énormément changé pour moi. J'étais très entourée, j'avais une énorme vie sociale. Et je suis devenue mère, en plus expatriée, mais alors là, c'est allé au zéro, quoi. Zéro, zéro, zéro. Je pourrais pas vous dire, ouais, une amie ou un ami vraiment à moi, oui, les amis de mon conjoint, ok, mais vraiment à moi, etc. Non, j'ai des collègues avec qui je parle de temps en temps, mais j'ai pas d'amis ici, quoi. Et donc, ça a été quelque chose de vraiment différent pour lui parce que lui, il est d'ici, c'est son pays, il a ses amis d'enfance ici, et en plus de ça, de devenir père, honnêtement, oui, ça lui a réduit sa vie sociale. Je vais pas dire que ça lui a pas du tout réduit sa vie sociale, c'est pas vrai, mais il la continue en fait, sa vie sociale. Il continue à sortir des fois le soir à voir ses amis. Il continue à faire des réseaux. Il continue à faire des activités de temps en temps. Beaucoup moins souvent, certes, mais il continue quand même à avoir une vie sociale. Alors que moi, c'est allé à 0, 0, 0, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, ben, ouais, je pense, beaucoup plus difficile à vivre pour moi qui suis devenue mère et en plus mère expatriée que pour lui en tant que père. Ça, c'est certain. Surtout qu'en fait, ses amis ont tous des enfants. Donc, très souvent,
Ah
ça les... Enfin, dans le même emploi du temps, entre guillemets, parce qu'ils ont des enfants, ils comprennent, ils viennent, voilà, avec leurs enfants, etc. Donc, voilà.
Ok. Pour toi, Pauline?
bah moi, franchement, bon, il faudrait lui poser la question à lui, comment il le perçoit lui, mais moi, comment je le perçois, vraiment, j'ai l'impression que ça n'a rien changé, quoi, ou quasiment rien. C'est-à-dire que, bah, comme Émilie, moi, il continue à avoir une vie sociale. Bon, alors moi aussi, hein, j'ai une vie sociale. Attention, j'ai encore des amis. Je ne vais pas me plaindre. Mais par contre, bah, c'est des amis qui acceptent de me voir qu'avec mes enfants. Parce que je peux très rarement me libérer sans mes enfants. C'est des amis que j'ai rencontrés via mes enfants aussi. Mais voilà, pour mon mari, lui, les amis qu'il avait avant, il les a gardés. Alors, il les voit moins, mais est-ce que ça a un rapport avec les enfants? Je pense que c'est plus lié au temps qui a passé. Mais voilà, ça lui est arrivé encore récemment de faire des restos le soir, de faire des soirées avec ses potes. Et moi, je reste à la maison pour garder les enfants. Et l'inverse, mais n'existe absolument pas. Jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit lui dire, bon, samedi soir, toi, tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses, tu les endors, tu les couches. Et moi, je vais au restaurant avec mes copines. Non, c'est invraisemblable. Et pour le travail, alors pour le travail,
Pourquoi?
ça n'a. Oh ben parce qu'il me dirait, ah ben non, mais moi je vais pas y arriver.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, donc ben oui, mais tu lui donnes le sein. Ouais, mais en vrai, Selma, tu peux l'endormir en portage. Donc, enfin, voilà quoi. Ça m'arrive d'ailleurs régulièrement de pas du tout l'endormir au sein, mais voilà, c'est comme ça. Et là, pour le travail, ben, là, il y a encore pas longtemps, il est parti en déplacement pour une formation. Il est parti 2 jours. Ben, la nuit, j'ai géré seul. Mais l'inverse n'existe pas. Voilà. Là, Aymen, les seules
Okay.
fois, enfin, mon mari s'appelle Aymen, les seules fois où il a géré Meïssa, parce que Salma n'était pas encore née, la nuit, bah, c'est quand moi j'ai été hospitalisée en HP. C'était jamais arrivé avant. Même en soirée, hein, même juste aller boire un verre avec une copine, ça meurt, quoi. Voilà, que lui, non. Lui, c'est. Voilà, même là, ça lui arrive des fois le dimanche matin, ouais, je vais aller faire du vélo avec mon pote. Ok. Et il part.
Il se
Il
pose
se
beaucoup
dit.
moins de questions que nous, hein.
Ah ben clairement, il se dit pas est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle a besoin
Non,
que je
non.
reste? Non, à aucun moment il se pose la question. Il fait. Moi, si j'ai
Ouais.
envie, par exemple, d'aller au café avec une copine, bon déjà je vais l'anticiper, c'est-à-dire que je vais le prévoir au moins une semaine à l'avance. Au moins une semaine à l'avance, je vais lui dire est-ce que c'est possible que. Comme... Mais tout simplement, l'enregistrement du podcast ce matin. Moi, ça fait bah, depuis qu'on a pris la date que je lui rappelle tout. Les jours que ce matin, ils ne peuvent rien faire à part s'occuper de Selma parce que moi, je suis occupée. Et
Ok.
c'était nécessaire de le rappeler tous les jours, sinon il aurait prévu autre chose. Parce que ben voilà,
Mmh,
il est libre de son temps, quoi. Voilà.
ok.
Tout
Ok.
simplement.
Ouais, bah, moi, je pense que il y a eu la première année où il était perdu parce qu'il savait pas quoi faire. Donc, du coup, il a un peu, on va dire, rien changé à ses habitudes parce que c'était son point d'ancrage. Sauf que bon, bah moi j'aurais bien aimé avoir le même luxe
C'est ça.
de rien changer de ma vie d'avant. Donc ce qui n'a pas été possible. Et puis j'ai gueulé et j'ai dit mais attends, mais c'est pas possible que moi, alors j'ai pas envie de dire je fasse tout parce que c'est pas vrai, mais je m'occupe tout le temps de Charlie pendant que toi, tu continues à aller faire trois fois, parce que mon mari est cycliste. Donc, il faisait 39 heures au travail, plus trois entraînements de vélo par semaine.
Ah oui.
C'est pas possible parce qu'en fait, moi, j'ai pas de relais. Donc, la première année, comme j'ai dit, j'avais pas de relais. Donc, je dis, toi, tu finis déjà à 19 heures tous les soirs. Si en plus tu pars, parce que mon mari a très peu de vie sociale parce que c'est un solitaire, quoi, donc il aime pas trop ça, donc il partait pas faire des restos avec des copains ou des trucs comme ça, mais il partait faire son vélo et ou courir ou etc. Et je dis, c'est pas possible en fait, moi à 19 h, je suis restée toute la journée quasiment toute seule, je peux pas encore rempiler 1 h 30 toute seule avec le bébé, quoi, c'est juste pas possible. Et en fait, il m'a entendu, et du coup, il a arrêté complètement. Et sauf que bon, bah, ça, il est devenu malheureux. Donc, du coup, c'était pas tenable. Donc, du coup, on a un peu réfléchi. Et puis, je pense que bon, la charge mentale, la répartition et tout, je pense qu'on sait pas. On en reparlera
Ouais.
sûrement. Mais en fait, il y a quand même eu à ces 18 mois à Charlie, on a changé du tout au tout. Il a trouvé un autre emploi, comme j'ai dit, pour qu'on se rapproche de ses familles, de nos familles. Et en plus, il est passé du 39 heures à 35 heures à 1 km de son travail. Donc du coup, ce que je disais, il finissait à 19 heures, sauf qu'il y avait 15 minutes de route, donc et il faisait toujours des heures sup, donc à chaque fois il était là qu'à 19 h 30. Là, à 19 h 02, il est là.
Ouais.
Voilà. Et puis il fait plus que 35 heures par semaine. Donc du coup, il y a quand même eu un changement pour lui dans sa vie professionnelle, puisqu'il a changé de travail. Cependant, c'est quand même plutôt positif parce que là, il vient d'avoir une promotion, donc on va quand même dire que même s'il a réduit son temps de travail, donc finalement, il gagne moins, hein, c'est normal, là, il est revenu à son salaire quasiment de ce qu'il avait avant parce qu'il a eu une promotion, donc on va plutôt dire que c'est plutôt
Ça a
positif,
été bénéfique,
son,
oui, tout à fait.
voilà, c'est ça. Alors par rapport à moi qui suis restée sans emploi pendant plus de 3 ans, là, du coup, mais il y a quand même eu un changement. Et là, grâce au fait qu'on ait du relais, il recommence tout doucement à refaire du vélo. Mais voilà. Donc je dirais que c'est en demi-teinte. Alors oui, c'est clair que par rapport à moi, c'est même pas photo. Sa vie n'a pas trop changé par rapport à la mienne, parce que moi, je faisais des choses avant et j'en faisais plus. Et maintenant, j'en fais quasiment plus. Que ce soit professionnellement ou socialement, mais il y a quand même eu des petits changements qui sont à notifier, voilà. Mais voilà,
Mais
c'est quand même pas.
si je peux me permettre,
Oui.
je me rends compte de quelque chose, c'est que nous, en fait, les changements qui ont été opérés dans nos vies, ils se sont imposés par les enfants. C'est-à-dire
Oui.
qu'on a pris nous-mêmes la décision de. Alors, c'était fortement consenti ou pas, mais on a pris nous-mêmes la décision de faire ce qu'on a fait et de laisser tomber tout ce qu'on a laissé tomber. Alors que les hommes, en tout cas les nôtres, c'est nous qui avons dû taper du poing sur la table pour dire maintenant,
Oui.
tu fais telle et telle concession pour tes enfants. Mais ce n'est pas les
Oui.
enfants qui ont imposé à l'homme. Enfin, je ne sais pas si vous le
Oui,
vivez de la même façon.
oui, c'est pas venu. Oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, pour Émilie, tu nous diras après, mais pour moi, en tout cas, oui, c'est moi qui lui ai dit, là, il faut faire un changement. C'est pas lui qui s'est dit, bon, alors là, ça va pas, donc du coup, je vais trouver une solution pour changer. Ouais, tout à
C'est
fait.
ça. Oui. Sur certains petits points aussi, c'est moi. De toute façon, c'est toujours moi qui ai initié le changement quand en fait j'ai commencé à péter un câble. Et en fait, c'est comme ce que vous disiez. En fait, j'ai dû taper du poing sur la table, mais parce que en fait, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais Ouais,
plus
oui.
d'être toute seule à faire le truc. Je me
C'est
disais,
ça.
mais là, au bout d'un moment, c'est pas possible. Là, c'est complètement injuste. C'est complètement injuste et c'est pas normal. Donc, oui, sur des changements comme ça, il y a eu, enfin, sur des choses comme ça, il y a eu quand même des changements de sa part, mais jamais initié par lui. Mais pourquoi il changerait quelque chose en même temps?
Ben
Lui, il
oui,
était
mais c'est
tranquille.
vrai.
Mais oui, ça
Non,
l'aura.
mais oui. Mais après,
Voilà.
tu peux aussi, enfin, moi, je sais pas, mais moi, si je vois mon conjoint en souffrance. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il aille
Oui, mais les hommes sont égoïstes, Pauline,
mieux.
honnêtement. Non, mais franchement, je dis ça. Mais
Ouais.
je dis ça honnêtement, c'est vrai, je trouve qu'il y a, pas tous les hommes, not all men, blablabla, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc chez les hommes, c'est d'être capable d'être super égoïste, de penser à eux
avant tout le reste. Vraiment, c'est un truc, même chez les meilleurs, même chez les pères investis. Moi, je le dis souvent parce que j'ai un deuxième compte qui s'appelle tu veux que je le prenne? Et je dis souvent en fait, ces hommes-là, et mon homme en particulier, mais je le trouve formidable. Je le trouve formidable. Il est génial. Sinon, je ne serais pas avec. Mais. Eh ben, ça reste un homme qui est privilégié, qui pense d'abord à sa tête avant de penser au confort des autres. Voilà. Et je trouve que
C'est
c'est
ça.
un problème vraiment systémique, masculin, auquel nous sommes ben, vraiment une grande majorité à être confrontés. Donc, à partir du moment où lui, il est bien, où lui, il peut se reposer, où lui, il a du temps pour lui, j'ai encore un exemple d'hier soir, et après, on va peut-être arrêter, mais j'ai encore un exemple d'hier soir, c'est lui. Maintenant, qui est de lecture des histoires le soir, enfin, on se partage maintenant le coucher du soir. Moi, je reste à côté de Charlotte pour qu'elle s'endorme à côté de moi, mais je fais pas tout le reste avant le brossage des dents, les histoires, machin, je fais plus rien. Je vais juste me coucher à côté d'elle et qu'elle s'endorme à côté de moi. Et ben, hier soir, monsieur était fatigué parce qu'il est malade, parce qu'on est tous malades à la maison. Et ben, il a lu une histoire de 10 minutes et après, voilà, je te passe le bébé, quoi. Donc forcément, il était 7h30 du soir, forcément, elle n'allait pas s'endormir à 7h30 du soir. Donc c'est moi qui ai continué, c'est moi qui ai continué à lui lire des histoires et à m'endormir et à aller laisser s'endormir à côté de moi. Mais parce que monsieur était fatigué, monsieur était malade. Voilà. Mais ça, et ça, c'est récurrent. C'est récurrent, quoi.
Donc, sur ces petits mots, on va peut-être conclure. En se disant au revoir, parce que bon, je pense on a fait un peu le tour et je pense qu'on a compris où c'est qu'on voulait en venir dans cet épisode, à savoir que bah, avant d'avoir un enfant, on ne sait rien. Non, je rigole. Non,
Non,
mais bon,
non, c'est vrai, c'est
c'est
rien.
un peu ça quand même. Bah, ça bouleverse les vies de façon significative et malheureusement, c'est plutôt les mères qui se prennent. Un coup dans la tronche de leur vie personnelle, quoi. Donc
Ah ouais,
donc
clairement,
voilà.
le raz-de-marée, il est souvent pour les mamans.